Journaliste investigateur, il est déterminé à connaître la vérité. Philippe Vincent Foisy.
Je sais pas si, en fait, je sais pas où vous écoutez de la musique. Ceux et celles qui se sont abonnés à Spotify, en tout cas, vous le savez depuis une ou deux journées, parce que partout sur les réseaux sociaux, ils nous mettent leur palmarès des chansons et des albums qu'ils ont le plus écoutés, des balados aussi. D'ailleurs, on salue ceux et celles qui ont des balados cubes dans ce palmarès-là. Par contre, ce qu'on a vu durant les derniers jours, ce sont des artistes qui ont répondu à tout ça en disant « Ouais, les amis, il y a un gros problème avec Spotify. Ce sont les redevances. On reçoit des scènes en ce moment. Ariane Moffat, notamment, qui s'en est pris à Spotify en disant « Faites-vous le palmarès du nombre de scènes que vous donnez à ces artistes-là. » Le 24 heures ont un très bon dossier en demandant « C'est quoi le problème avec Spotify? » Puis on voulait en parler avec les gens de La Disque. Ève Paré est directrice générale de La Disque. Madame Paré, bonjour.
Bonjour.
Ariane Moffat, c'est pas la première à dénoncer les services de musique en continu. Il me semble qu'on en parle depuis un bon moment, puis j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui change, là.
C'est effectivement une situation qui est désolante. Il s'agit en fait d'un contrat d'entente privée, donc sur lequel on a très peu de pouvoir d'action, puis la position tellement dominante d'entreprise, puis comme Spotify, fait en sorte que le rapport de force est complètement inégal.
Parce que le 24 heures nous explique un peu là, comment ça se passe. Là, ils prennent l'argent total qu'ils reçoivent, le divisent dans un pays, le divisent après ça par nombre total de streams, d'écoute. Puis après ça, chaque artiste, selon le nombre d'écoutes, reçoit le nombre d'argent par rapport au nombre d'écoutes qu'ils ont eu. Là. Fait que ça fait pas beaucoup. Là. Je pense que c'est quoi? C'est 1 million d'écoutes, c'est 5 000 $.
Oui, c'est ce qu'on entend. Là-dessus, je vous dirais, ça soulève deux questions. Là. C'est le montant par écoute, effectivement, qui est très, très bas, surtout si on compare avec ce qu'un artiste pouvait aller tirer comme revenu à l'époque de la vente d'albums physiques. Mais ça soulève aussi la question, puis encore plus intéressante, du nombre d'écoutes. Vous savez, sur une plateforme, on a souvent des recommandations, que ce soit par les écoutes, soit par des algorithmes. Et la question peut se poser, est-ce que la musique québécoise d'artistes comme ceux que vous nommez trouve sa place sur ces plateformes-là pour générer un peu plus de revenus? C'est ça à quoi le projet de loi C-11 qui est présentement devant le Sénat tente de corriger.
Oui, mais ça, on s'entend, ça branle dans le manche, cette loi-là. Là.
Mais on est au fil d'arrivée.
Mais le Sénat tarde,
à la fin du processus. Là.
Le Sénat dort au gaz là-dessus. Là.
On souhaiterait qu'il soit un peu plus actif et rapide, là, qu'on puisse aboutir sur ce projet de loi, effectivement.
Vous êtes plus poli que moi ce matin. Je comprends votre rôle, là, mais quand même, le Sénat là-dessus qui aurait pu adopter ça déjà il y a quelques semaines. C'est juste que, est-ce que ça va vraiment changer les choses concrètement? Parce que il y en a beaucoup qui disent, oui, mais moi, je veux écouter ce que je veux écouter de la musique américaine, c'est tant mieux. Avant ça, on m'imposait des choix d'artistes, on m'imposait les 15-20 mêmes chansons, il y avait une couple de personnes qui décidaient ce qu'on pouvait écouter, alors que là, je peux écouter ce que je veux. Il y a des artistes émergents qui peuvent sortir et devenir extraordinaires parce qu'il n'y a plus de contrôle de quelques salles de radio. Il y a du positif là-dedans que des fois, on a l'impression que l'industrie, avec ses vieux modèles, ne voit pas. Là.
Oui, je comprends votre préoccupation. Vous savez, les plateformes ont une offre qui est énorme. Là. Vous avez le choix d'écouter ce que vous voulez. Puis, quand vous choisissez un artiste, il n'y a jamais personne qui va vous dire qu'est-ce que vous devez écouter ou pas. Par contre, quand vous avez envie de découvrir de la nouvelle musique, parfois vous avez un style musical que vous affectionnez particulièrement, pourquoi au fil des recommandations, dans ce style musical-là, il n'y aurait pas davantage d'artistes québécois? Ça vous permettrait d'en découvrir. Et vous savez, quand les Québécois, les consommateurs, découvrent la musique québécoise, ils la choisissent. On le voyait dans le temps de l'achat d'albums, c'était un album sur deux qui était un artiste québécois. Alors que maintenant, en streaming, selon les données qu'on compile, là, on le voit, la part d'écoute est chutée à tout près de 5%. Donc, il y a vraiment un problème là, de mise en relation, de contact avec le public qui ne se fait plus sur ces plateformes-là. Donc, il y a quelque chose à remédier là.
Donc, vous pensez que c'est principalement parce que il est moins accessible le contenu francophone qu'avant, là, quand on allait chez un disquaire, par exemple, puis on nous faisait des recommandations. C'est pas un choix personnel, là. C'est pas les Québécois qui veulent plus écouter de musique québécoise, selon vous, là.
Nous, on pense que non. Puis effectivement, là, l'exemple du choix chez le disquaire est excellent. Ça leur permet de choisir ce qu'ils veulent, d'en découvrir. Puis on peut pas choisir ce qu'on ne connaît pas. Donc, les outils de recommandation, surtout dans les listes aléatoires, par exemple, pourraient faire davantage de propositions. Puis nous, on a la conviction que la qualité de la production artistique au Québec va faire en sorte que les gens vont la choisir quand ils la découvrent.
Mais puis est-ce qu'il y a d'autres solutions? Parce que il y a comme deux grands, là, deux géants, là, comme on dit, Spotify, Apple Music. Est-ce que c'est pas mal bonnet blanc en termes de redevances?
Là-dessus, je vous dirais, on n'a pas d'informations là, sur les montants qui sont versés directement aux artistes. On sait que les montants sont beaucoup plus faibles, par contre, que à l'époque de la vente physique. Des plateformes, il en existe une multitude. D'ailleurs, on vient de sortir une super belle étude qui s'appelle le Guide MQF, que vous pouvez trouver sur notre site Internet, qui est une étude qui présente la manière dont les Québécois consomment la musique. Il y a 4000 Québécois qui ont été interrogés. Et là, on s'aperçoit que il y a une très, très longue liste de plateformes possibles. Parler de Apple et Spotify, mais il ne faut pas négliger YouTube, qui est la plateforme la plus utilisée et qui est possiblement celle qui rémunère le moins les artistes.
Ah oui, c'est le moins?
Oui, c'est ce qu'on se fait expliquer.
Bon, puis c'est sûr, je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Il n'y a que musique.
Mais Cube, hein?
Non, mais c'est les gens, on en entend peut-être moins parler. Est-ce que il y a moins d'écoute parce qu'en ce moment, je présume, c'est moins populaire que ces géants-là, mais est-ce que les ententes sont meilleures?
Au niveau de la rémunération, je crois comprendre que oui, encore là, je vous dis ça sur toute réserve. Par contre, là où Cube fait un excellent travail, c'est sur la mise en valeur du contenu québécois. C'est une plateforme qui a été très, très bien conçue. Bien que l'ensemble de l'offre musicale est disponible, il y a un effort très, très soutenu de découverte de la musique québécoise. Mais ce que ça soulève comme question, c'est vraiment la commercialisation. Vous savez, au Québec, on est une société un peu à part où la musique est le fait d'entreprises indépendantes. Alors que partout ailleurs, ce sont les majors, les multinationales. Donc, il faut être en mesure de rivaliser avec ces entreprises-là dans le positionnement de nos artistes sur les plateformes. Et ça, on parle de moyens de commercialisation qui sont importants avec lesquels on devra rivaliser.
Est-ce qu'on en a? T'sais, parce que ultimement, ce que j'entends, c'est que le gouvernement pourrait se mettre à jouer un peu le rôle des majors, mais en même temps, je veux pas nécessairement que ce soit François Legault qui choisisse la musique que j'ai envie d'écouter. Mais est-ce que collectivement, il y a moyen de trouver une solution plus forte, meilleure pour faire cette commercialisation-là, pour pousser cette musique-là?
Vous savez, hein, c'est toute une question d'argent.
Ouais.
Donc, c'est l'idée ici d'avoir les moyens de nos ambitions. Donc, c'est sûr que des moyens financiers qui nous permettraient de rivaliser avec les grandes multinationales, ça aiderait certainement.
Parce que en bout de ligne, on reviendra pas au CD. Il y a la petite mode des vinyles là, qui plaît à certains, mais ceux et celles qui aiment la musique ou un peu là, comme moi, mettons, ben on est bien content de la facilité de ces plateformes-là. T'allumes Cube Musique, tu peux mettre une liste, puis t'en reparles plus, de pas retourner le CD aux deux minutes, le CD arrête jamais, puis t'as plein de musique qui est dans le même style pendant des heures. Là. Fait que on reviendra pas en arrière sur les modes d'écoute. Fait qu'il va falloir trouver des façons d'aider les artistes dans ce nouveau milieu-là.
On ne reviendra certainement pas en arrière, mais ce que l'étude dont je vous parlais il y a quelques minutes révèle, c'est la troisième édition, donc on le fait périodiquement pour voir comment la consommation change, c'est que les façons de consommer de la musique évoluent à vitesse grand V. Il y a deux ans, on ne parlait même pas de TikTok comme étant un joueur important dans la consommation musicale. Or, on voit que c'est un acteur qui prend de plus en plus de place. Quand sera-t-il dans un an, deux ans, trois ans? Je ne saurais vous dire, mais c'est sûr que la question de la rémunération des artistes est au cœur de nos préoccupations.
L'important, c'est qu'on continue d'en écouter et qu'il continue de s'en faire de la bonne musique. Eve Paris, directrice générale de la Disque, merci d'avoir été là.
Ça fait plaisir.
Salut.